Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous et bienvenue en Afrique du Sud où nous sommes cette semaine. ICASA, la 17e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, vient de se terminer au Cap et c'est l'occasion pour nous de faire un bilan de cette conférence et un point sur la recherche en Afrique. Aujourd'hui, près de 10 millions de personnes, soit plus de 60% des malades qui sont dans le besoin le plus urgent de traitement, ont accès à des médicaments antirétroviraux. Le nombre de nouvelles infections et la mortalité liées au sida ont reculé de plus de 25% dans les 5 dernières années. Mais beaucoup reste à faire. De nombreux patients n'ont toujours pas accès au traitement. Des discriminations perdurent, empêchant justement l'accès aux soins. Alors on va s'intéresser, je vous l'ai dit, plus particulièrement aujourd'hui aux recherches. Sur quoi portent-elles? Comment sont-elles menées sur le continent africain? Je vous présente mes invités. Ils sont 4 autour de cette table. Le professeur François Dabis, qui travaille au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, professeur d'épidémiologie, économie de la santé et prévention. Le professeur Serge Ollier, qui est médecin spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est coordinateur adjoint du site ANRS en Côte d'Ivoire. Le professeur Idriss Abba, qui est psychiatre au CHU de Dakar au Sénégal. Et le docteur Calorine Mekiedje de Médecins Sans Frontières au Swaziland. Et on terminera cette émission avec Michel Sidibé, directeur de l'ONU SIDA, qui dressera un bilan de cette conférence. Bonjour à tous, merci à tous les quatre, merci d'être là. J'aimerais bien faire un tour de table sur ce que vous avez pensé de cette conférence, sur le bilan. Serge Ollier, qu'est-ce que vous pensez de cette conférence sur le sida au Cap en Afrique du Sud?
On pourrait dire que le bilan est globalement positif. Si on suit le thème du congrès qui est maintenant plus que jamais vers l'objectif de zéro infection, en termes de plaidoyer, en termes d'intervention des décideurs, qu'il s'agisse bien des décideurs politiques, des responsables des différentes agences qui interviennent dans la lutte contre le VIH, nous avons entendu des messages assez forts. Il y a aussi des appels qui ont été faits pour que d'autres bailleurs importants sur la planète, surtout venant des pays émergents, contribuent au financement de la lutte contre l'infection à VIH.
Très concrètement, l'appel était d'ailleurs destiné à la Chine.
Je dirais pays émergents. En faisant appel à la Chine, personnellement, je pense qu'on faisait appel à tous les différents pays émergents. L'Afrique du Sud en fait partie et c'était la bonne place pour faire appel aux pays émergents. L'autre point, c'est que scientifiquement, nous constatons qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, aussi bien dans les sciences cliniques, biologiques, fondamentales aussi dans les sciences sociales. Et cette conférence est l'ouverture pour la prise en charge aussi des co-infections, des hépatites virales, B et C, aussi bien des mono-infectés, B et C. Il faut qu'on aille un peu plus loin dans la prise en charge de l'infection à VIH.
Docteur Calorine Mekiedje, vous faites partie de Médecins Sans Frontières. Qu'est-ce que vous pensez de cette conférence?
Je dirais que j'ai un bilan plutôt très positif de ce que j'ai vu dans cette semaine qui vient de passer. J'ai été particulièrement touchée par quelques points bien précis. En l'occurrence, le fait qu'on ait pu mentionner le manque d'intervention dans certains pays dits à prévalence moyenne ou très inférieure, mais qui n'avaient pas souvent été prises en compte du fait des taux de prévalence qui sont dits moyens. Mais quand on regarde exactement en termes de nombre de personnes atteintes, on se rend compte que c'est justement dans ces pays qu'on a plus de gens qui ont besoin de traitement. Mais il n'y a pas souvent eu d'action.
Très concrètement, on fait référence à l'Afrique centrale et à l'Afrique de l'Ouest.
En effet, et je pointerai surtout le Nigeria, parce que si vous regardez la population du Nigeria, qui est le voisin du Cameroun, le pays d'où je viens, ils sont 150 millions. Alors, quand vous faites 2% de 150 millions, je pense que c'est bien plus que 26% de 2 millions.
Ça fait du monde, c'est ça que vous voulez dire?
Ça fait du monde. On a fait la chasse au pourcentage et il est temps qu'on fasse la chasse au nombre de personnes qui ont besoin de traitement. Il est vrai qu'on a parlé aussi de l'objectif durant cette ICASA de la fin du HIV. Il est bon d'avoir un objectif.
Mais on n'y est pas encore, franchement.
Il faut maintenant pouvoir tracer le chemin vers là. Tout comme au tout début, quand les ARV ont commencé, en Afrique, c'était un rêve de voir les ARV marcher. Et quelques années, 10 à 20 années plus tard, on a des résultats comme la diminution de la transmission de plus de 25%. Et c'est pour ça que, bien qu'il y en ait encore des gens qui n'ont pas l'accès aux soins, il est bon d'avoir un point de vue qui va nous permettre de tracer le chemin pour cela. Un avantage de commencer tard. Au Swaziland, par exemple, les ARV sont arrivés en 2005 ou en 2006. Donc, quand ils ont commencé les ARV, on était déjà dans des schémas thérapeutiques plus supportables pour les patients. Résultat, il y a moins de développement de résistance. contrairement aux pays qui ont commencé avec les molécules qui étaient encore très très dangereuses et beaucoup plus la DDI.
Avec des effets secondaires plus importants.
C'est pour dire qu'il y a toujours quelque chose de positif à tirer de ce qui peut arriver. C'est peut-être un retard, mais ça peut avoir des effets.
Docteur Idriss Abba, avant de vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette conférence, une question, qu'est-ce que fait un psychiatre dans la recherche sur le sida, très étonnamment ?
D'abord, dans un premier temps, nous sommes souvent sollicités par nos collègues infectiologues pour le suivi des patients vivant avec le VIH. D'un autre point de vue aussi, on sait que les pathologies, en tout cas liées au VIH, sont des pathologies aussi qui s'accompagnent de beaucoup de souffrances, qu'on ne peut pas dire souvent et même qu'il est difficile de dire. Souvent, le psychiatre a à intervenir, mais pour qu'il puisse intervenir, il faut qu'il ait des outils, il faut qu'il comprenne ce qui se passe, d'où la nécessité de la présence d'un psychiatre.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette conférence qui vient de se terminer?
Nous sommes globalement satisfaits de cette conférence qui est vraiment un lieu de rencontre, des moments de rencontre avec différents spécialistes, mais aussi avec des associatifs. Nous voyons de plus en plus, si on se réfère aux sessions antérieures, notamment à ICASA en 2011, nous voyons vraiment l'émergence d'une population vulnérable et qui n'était pas prise en compte dans les différents programmes. Si on se réfère au cas du Sénégal, l'enquête qu'on a menée en 2011 nous a permis de mettre en évidence quand même qu'il y a une population qui est là et qui est hautement vulnérable. Et cette enquête nous a permis vraiment de positionner cette population, notamment les usagers de drogue, plus particulièrement les usagers de drogue injectables, comme groupe vulnérable dans le cadre du programme de lutte contre le sida.
On y reviendra sur cette recherche que vous menez sur les populations vulnérables, particulièrement sur les usagers de drogue. François Dabis, même question que pour les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette conférence? Est-ce que vous êtes aussi optimiste ou est-ce qu'un peu plus mitigé? Moi, je trouve qu'elle est un peu molle, cette conférence, très honnêtement.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors oui, on ne va pas susciter un débat parce que finalement, moi aussi, je suis plutôt globalement du côté positif. Mais évidemment, j'ai quelques interrogations. La première, c'est que je suis quand même très encouragé par voir les Africains avoir des discours de conviction sur le fait qu'ils sont en train de gagner la bataille, mais pas du tout la guerre. Et la guerre, maintenant, on voit bien que l'échéance a été fixée vers 2030. Elle n'est pas pour tout de suite. Donc, il y a quand même cette conviction très forte qui est exprimée. La deuxième, c'est qu'au moins pendant quelques années maintenant, on va avoir une bouffée d'oxygène sur les financements, puisqu'on a vu que le renouvellement du Fonds mondial donner la capacité sur les 2-3 ans à venir de continuer le travail tel qu'il est fait actuellement. Évidemment, ce qui m'inquiète, c'est que pour faire ça, il faut travailler avec des systèmes de santé qui sont très fragiles. Et on va leur demander encore plus. Donc évidemment, ça, c'est une inquiétude. Et puis ce qui est ce qui est un vrai défi, c'est qu'il faut que maintenant que dans les pays, le travail se fasse à une échelle beaucoup plus locale que le pays lui-même. On a vu l'exemple du Kenya, par exemple, où on nous a montré que dans une épidémie généralisée comme le Kenya, le Kenya pouvait être divisé en 4 types de districts totalement différents, où à l'évidence aujourd'hui, il ne faut pas travailler de la même manière envers les populations les plus touchées et construire le... Voilà. Et donc ça, c'est très difficile et je sens bien aussi que c'est un défi supplémentaire. Et puis, ma collègue l'a dit juste avant, le Nigeria est le mauvais élève de cette conférence parce que c'est celui qui met les statistiques du continent peut-être le plus dans le rouge aujourd'hui. C'est celui sur lequel peut-être il y a eu un des pays où il y a eu le plus de moyens dépensés pour l'instant et pour l'instant les résultats ne sont pas là.
Vous citez le Nigeria, oui. Vous ne citez pas aussi la RDC, la République démocratique du Congo?
Bien sûr, c'est évident que je vais les citer, mais le Nigeria, le volume est encore plus important. Et franchement, eux, ils ont eu des moyens. Et pour l'instant, le retour sur investissement n'est pas là. Or, il y a quand même deux objectifs qui ont été fixés pour 2015. C'est un qui est 15 millions de gens traités en 2015. Je rappelle aux auditeurs qu'il n'y en a même pas 10 millions aujourd'hui. Passer à 15 dans 2 ans, c'est absolument considérable. Puis deuxièmement, éliminer la transmission mère-enfant sur le continent dans 2 ans aussi. Ben, le Nigeria, si ça ne marche pas au Nigeria, ces objectifs ne pourront pas être atteints. Mais bien sûr, il faut que ce soit le cas dans tous les pays.
Et on va parler justement prévention de la transmission mère-enfant parce que vous menez beaucoup de recherches sur ces questions-là.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous sommes au Cap en Afrique du Sud. La 17e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique vient de se terminer. Professeur François Davis, vous menez des recherches, vous, ici, hein, en Afrique du Sud, entre autres sur l'intérêt d'une mise sous traitement le plus tôt possible pour éviter la transmission du sida. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste cette recherche.
Nous, les recherches que l'on mène avec l'Agence nationale de recherche sur le sida et les autorités sud-africaines, ça consiste à se dire, et si on pouvait dépister et traiter tout le monde dès que possible, est-ce que dans une population, ça changerait le risque de transmission et ça ralentirait plus rapidement, beaucoup plus rapidement, l'épidémie. Donc c'est des recherches qu'on mène en communauté dans la région du KwaZulu-Natal. Ça va prendre encore 2-3 ans et actuellement, on teste l'acceptabilité de savoir si on peut dépister les gens en allant les voir à domicile pour savoir s'ils acceptent de se faire dépister. Quand ils sont dépistés, qu'ils l'acceptent, et beaucoup semblent aujourd'hui l'accepter, est-ce qu'ils acceptent de rentrer dans le système de soins vite, notamment s'ils sont séropositifs, et s'ils acceptent, est-ce qu'ils acceptent de se faire traiter tout de suite? Tous ces indicateurs, on est en train de les accumuler et on a de bonnes évidences que ça a l'air de marcher. Donc on continue, on élargit ça à une échelle de plusieurs dizaines de milliers de personnes pour que dans les 2-3 années à venir, on puisse dire de combien l'impact a été sur la réduction du risque de transmission.
Aujourd'hui, vous avez des premiers résultats
ou pas ? Aujourd'hui, on peut dire que lorsqu'on va vers les populations, lorsqu'on leur propose ce type de service, ils semblent y adhérer et y être intéressés. Je ne peux pas dire quel sera l'impact, mais finalement, le type de recherche que l'on mène là avec la NRS, très bientôt la fondation Gates, ça aussi c'est très nouveau pour nous francophones, nous travaillant...
Et pour la NRS,
avec la fondation Gates, ça sera en fait le premier projet dans lequel un financement philanthropique va nous rejoindre. La question aujourd'hui c'est...
La NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida française, et
voilà, publique, une agence publique française, c'est la première fois qu'on aura un partenariat avec une très grande fondation philanthropique américaine. La question aujourd'hui, elle n'est pas de savoir si on va un jour traiter ou pas tout le monde. Je crois qu'on y arrivera. La question, c'est de savoir comment il faut le faire. Et nos recherches, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. C'est comment va-t-on, le plus vite possible, traiter le plus de gens possible.
Alors, juste avant qu'on enregistre cette émission, le TAC, le Treatment Action Campaign, qui est une très grosse association d'activistes sud-africains, a organisé ici, pendant cette conférence, une conférence de presse. Ils ont beaucoup insisté sur le fait 2 400 000 personnes sous traitement en Afrique du Sud, un vrai challenge parce que ça a été vraiment fait de façon très rapide. Mais là-dessus, on ne sait pas très bien qui suit réellement son traitement. Quelle est l'efficacité du traitement ? Est-ce que ça marche ? Vous êtes d'accord avec ça ? On manque un peu d'études sur le terrain ?
Je suis partiellement d'accord parce que l'Afrique du Sud est un des pays qui traite le plus de gens, mais qui aussi dispose des informations, j'ai envie de dire, d'une excellente qualité sur ce sujet. Et incontestablement, ils mettent énormément de gens sous traitement. Beaucoup de gens arrivent, hélas, encore trop tard. Trop tard au sens où ils ont perdu des chances, évidemment, par rapport à leur qualité de vie et à leur chance de vivre normalement. Mais aujourd'hui, et un certain nombre d'entre eux vont quitter les programmes de traitement en cours de route. Mais globalement, les indicateurs dans ce pays sont plutôt bons. Hein. Et on a même quelques études, notamment au KwaZulu-Natal, donc dans cette province de Durban, où on a pu montrer que l'introduction des antirétroviraux dans ces populations améliorer considérablement l'espérance de vie. Et ça, ça a été démontré en Afrique du Sud et pour l'instant, pas ailleurs. Je peux comprendre que TAC veuille plus vite, et ils ont raison, et nous travaillons aussi pour la recherche dans cet esprit-là, mais on peut dire qu'aujourd'hui, les choses avancent plutôt dans la bonne direction en Afrique du Sud.
Docteur Calorine Mekiedje, vous travaillez pour Médecins Sans Frontières, hein. Vous faites des recherches sur la prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant au Swaziland. Expliquez-nous en quoi consiste cette recherche. D'abord, peut-être quel est l'objectif et puis en quoi elle consiste.
Est-ce que, si vous me permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais dire un petit mot sur l'intervention que François vient de faire. Vous avez parlé de l'accès et de la qualité. Alors, on a initialement défini l'accès universel. Et une fois qu'on arrive à avoir ces objectifs atteints, on peut parler de la qualité. Et souvent, on a une bonne surprise, c'est que quand on arrive à maintenant évaluer et faire de l'évaluation de la qualité de ces services, on peut trouver des résultats assez étonnants qui sont très encourageants. Et
vous travaillez sur cette question de la qualité, justement.
Exactement, nous avons travaillé dessus. Et donc, l'objectif de l'accès et de la qualité, c'est pour en arriver à avoir des statuts non plus seulement VIH positif, mais VIH positif et indétectable. Si je veux répondre maintenant à la question que vous avez posée sur les études que nous sommes en train de faire au Swaziland, celle que nous avons mise en place en début de cette année, c'était pour évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de la prévention de la transmission mère et enfant. Une nouvelle option qui est appelée option B+, et ceci dans le but d'atteindre l'objectif zéro transmission. C'est une recommandation qui avait été déjà faite par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, avec MSF, nous essayons de démontrer dans différents pays que c'est faisable dans le contexte où ils sont. Et ainsi, on peut influencer sur l'écriture des policies pour incorporer et adopter ces recommandations et ainsi pouvoir l'appliquer dans tout le pays.
C'est ça. En fait, de façon très concrète, vous, les recherches que vous menez, c'est pas de la recherche fondamentale, c'est vraiment de la recherche appliquée au terrain. Entre ce qu'on a conseillé de faire et la réalité de pays en voie de développement plus difficile, vous montrez ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable.
Exactement.
Donc, concrètement, sur cette prévention de la transmission mère-enfant, vous essayez de mettre les femmes le plus tôt possible sous traitement, dès que le test a été fait. Et alors, quels sont les premiers résultats? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elles adhèrent bien au traitement? Est-ce que ça empêche la transmission du sida à l'enfant?
Alors, les résultats par rapport à la transmission ne sont pas encore là. C'est une étude qui a commencé en début de cette année. Donc, les premiers bébés vont arriver bientôt. Mais en ce qui concerne l'acceptabilité, nous avons de très bonnes surprises parce que, justement, c'est très accepté. Et on a constaté que la résistance, en fait, vient du personnel soignant. C'est très controversant. Parce que la population, elle écoute ce que disent le personnel soignant. Et qu'en fait, on a besoin de plus travailler sur le personnel soignant que sur la population. Tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on réponde à leurs besoins d'être en bonne santé.
Mais la population, elle n'est pas un peu en situation de confusion par rapport à ces messages sur la prévention de la transmission mère-enfant qui ont complètement changé au cours de ces dernières années? Moi, ça fait 10 ans que je fais cette émission, j'entends des messages qui sont presque contradictoires avec ce que j'ai entendu au début.
En effet, il y a beaucoup ces contradictions, mais la rétention vient beaucoup plus du personnel de santé. Du fait de la connaissance scientifique de la question, ils ont beaucoup plus d'appréhension. Quand vous allez voir le commun du mortel dans le public, vous leur dites ça aujourd'hui, demain vous leur dites que ça a été prouvé, vous donnez la littérature, ils vous écoutent. À partir du moment où vous leur prouvez que ça va améliorer leur santé. Mais le personnel de santé qui a compris les mécanismes, comment ça fonctionne, alors aujourd'hui on dit A, demain on dit B, ce sont eux qui ont plus de réticence. Et donc, avec
l'implémentation,
pas seulement les former, il faut surtout assurer du conseil profond. Parce que et c'est avec l'implémentation de cette étude que nous avons commencé au début de cette année, qu'on a commencé à réaliser ça, les changements de messages. Là où il faut adapter, c'est pas seulement la mobilisation de la population, mais surtout du personnel de santé qu'il faut former et mettre tout le monde ensemble pour adresser le même message. Mais l'acceptabilité et la faisabilité, si elle a été prouvée que c'est faisable, et d'ailleurs le ministère de la Santé au Swaziland, ils vont l'adopter pour l'année prochaine.
Professeur François Dabis, juste un mot de réaction par rapport à ça, parce que ça fait des années que vous travaillez sur ces questions-là.
Les chercheurs qui ont fait de la recherche clinique sur la prévention de la transmission mère-enfant n'ont presque plus rien à faire, parce qu'aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut donner des trithérapies à toutes les femmes enceintes, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, continuer pendant la période d'allaitement, et de là, aujourd'hui, ne plus arrêter, c'est-à-dire ne plus mettre à risque les femmes en les arrêtant ponctuellement jusqu'à ce qu'elles aient une nouvelle grossesse. Il faut que ça soit la porte d'entrée
pour
elles.
Donc on sait ce qu'il faut faire, maintenant,
oui.
c'est comment c'est faisable,
voilà,
sur le terrain.
Voilà, c'est comment faut-il faire, et certains pays comme le Malawi ont décidé, avec beaucoup de courage, de le faire depuis un an et demi maintenant, et commencent à prendre, avoir des leçons, mais ces leçons ne sont pas exportables partout, donc il faut que des Malawi, il y en ait partout, il faut qu'il y en ait au Swaziland avec ce que fait MSF, il faut que les ministères de la Santé disent « oui, j'adopte cette politique ». Beaucoup de pays le font. On l'a vu, quelques diapositives qui nous ont montré que sur une carte d'Afrique, on voyait beaucoup de pays qui décidaient cette politique. Mais sur la même diapositive, on voyait que très peu de pays avaient décidé d'adopter en pratique cette politique et que donc leurs professionnels de santé le fassent. Je rappelle, l'objectif international qui a été fixé, c'est que il y a moins de 40 000 nouvelles infections de l'enfant chaque année en 2015. C'est ce qu'on appellera l'élimination.
Oui, c'est là où la recherche opérationnelle, qui est celle que fait MSF sur les terrains, complète la recherche clinique qui démontre ce qui donne des résultats. Et ensuite, il faut démontrer comment implémenter ces résultats dans différents contextes. Quels sont les besoins qu'il faudra mettre en place pour avoir du succès?
On se retrouve dans 3 minutes après les informations. Donc toujours pour parler de la recherche sur le sida en Afrique.